La prude ou la rencontre imprévue du marquis de Sade, tiré du recueil Historette, Contes et Fabliaux, lu par K00 pour audiocité.net. Monsieur de Cernanval, âgé d'environ 40 ans, possédant 12 à 15 000 livres de rente qu'il mangeait tranquillement à Paris, ne se mêlant plus du commerce dont il avait autrefois suivi la carrière et se contentant pour toute distinction du titre honorable de bourgeois de Paris visant à l'échevinage, venait d'épouser depuis peu d'années la fille d'un de ses anciens confrères, âgé pour lors d'environ 24 ans. Rien de si frais, de si potelé, de si charnu, de si blanc que Madame de Cernanval. Elle n'était pas faite comme les grâces, mais elle était appétissante, comme la mère des amours. Elle n'avait pas le port d'une reine, mais elle avait tant de volupté dans l'ensemble, des yeux si tendres et si pleins de langueur, une bouche si jolie, une gorge si ferme, si arrondie, et tout le reste si fait pour faire naître le désir, qu'il était bien peu de belles femmes à Paris auxquelles on ne l'eût préféré. Mais Madame de Cernanval, avec tant d'attrait dans le physique, avait un défaut capital dans l'esprit. Une pruderie insoutenable, une dévotion excédente et une sorte de pudeur si ridiculement excessive qu'il était impossible à son mari de pouvoir la décider à paraître dans ses sociétés. Poussant le bigotisme à l'extrême, il était très rare que Madame de Cernanval voulût passer une nuit entière avec son mari, et dans les moments même qu'elle daignait lui accorder, c'était toujours avec d'excessives réserves. Une chemise qu'on ne relevait jamais, une œillère artistement pratiquée au portique du temple de l'hymen n'en permettait l'entrée qu'au clos express d'aucun attouchement déshonnête et d'aucune conjonction charnelle. On aurait mis Madame de Cernanval en fureur si l'on avait voulu franchir les bornes qu'imposait sa modestie. Et le mari qui l'eût essayé eût peut-être couru les risques de ne plus recouvrer les bonnes grâces de cette sage et vertueuse femelle. Monsieur de Cernanval riait de toutes ses momeries. Mais comme il adorait sa femme, il daignait respecter ses faiblesses. Quelquefois cependant, il essayait de la prêcher. Il lui prouvait de la façon la plus claire que ce n'était pas en passant sa vie dans les églises avec des prêtres qu'une honnête femme remplit réellement ses devoirs, que le premier de tous sont ceux de la maison, nécessairement négligés par une dévote, et qu'elle honorerait infiniment davantage les vues de l'Éternel en vivant d'une manière honnête dans le monde qu'en allant s'enterrer dans des cloîtres, qu'il y avait infiniment plus de danger avec les étalons de Marie qu'avec ses amis sûrs dont elle refusait ridiculement la société. « Il faut que je vous connaisse et que je vous aime autant que je le fais, » ajouta à cela Monsieur de Cernanval, « pour n'être pas très inquiété de vous pendant toutes ces pratiques religieuses. Qui m'assure que vous ne vous oubliez pas quelquefois plutôt sur la molle couchette des Lévites qu'au pied des autels de Dieu ? Rien de si dangereux que tous ces coquins de prêtres. C'est toujours en parlant de Dieu qu'ils séduisent nos femmes et nos filles, et c'est toujours en son nom qu'ils nous déshonorent et nous trompent. Croyez-moi, cher ami, on peut être honnête partout. Ce n'est ni dans la cellule du bonze, ni dans la niche de l'idole que la vertu érige son temple. C'est dans le cœur d'une femme sage, et les compagnies décentes que je vous offre n'ont rien qui ne s'allie au culte que vous lui devez. Vous passez dans le monde pour une de ses plus fidèles sectatrices. J'y crois. Mais quelle preuve ai-je que vous méritiez réellement cette réputation? Je croirais bien mieux si je vous voyais résister à d'artificieuses attaques. Ce n'est pas la femme qui se met dans ce cas de n'être jamais séduite, dont la vertu est la mieux constatée. C'est celle qui est assez sûre d'elle pour s'exposer à tout sans rien craindre. » Madame de Cernanval ne répondait rien à cela, parce qu'en fait, l'argument était sans réponse, mais elle pleurait, ressource commune des femmes faibles, séduites ou fausses, et son mari n'osait pas pousser plus loin la leçon. Les choses étaient en cet état lorsqu'un ancien ami de Cernanval, un nommé Desportes, arriva de Nancy pour le voir et conclure en même temps quelque affaire qu'il avait dans la capitale. Desportes était un bon vivant, de l'âge à peu près de son ami, et ne haïssait aucun des plaisirs dont la nature bienfaisante avait permis à l'homme de faire usage pour oublier les maux dont elle l'accable. Il ne résiste point à l'offre que lui fait Cernanval d'un logement chez lui, se réjouit du plaisir de le voir et s'étonne en même temps de la sévérité de sa femme qui, du moment qu'elle sait cet étranger dans la maison, refuse absolument de paraître et ne descend même plus au repas. Desportes croit qu'il gêne, il veut se loger ailleurs. Cernanval l'en empêche et lui avoue enfin tous les ridicules de sa tendre épouse. « Pardonnons-lui, » disait le mari crédule. « Elle rachète ses torts par tant de vertus qu'elle a obtenu mon indulgence, et j'ose te demander la tienne. »« À la bonne heure, » répondait Porte, « dès qu'il n'y a rien de personnel pour moi, je lui passe tout, et les défauts de la femme de celui que j'aime ne seront jamais à mes yeux que des qualités respectables. » Cernanval embrasse son ami et ne s'occupe plus que des plaisirs. Si la stupidité de deux ou trois ganaches qui, depuis 50 ans, régissent à Paris la partie des filles publiques et nommément celle d'un fripon espagnol qui gagnait le règne dernier, 100 000 écus par an, à l'espèce d'inquisition dont on va parler. Si le plat rigoriste de ces gens-là n'avait pas bêtement imaginé qu'une des plus célèbres manières de mener l'État, un des ressorts les plus sûrs du gouvernement, une des bases enfin de la vertu, était d'ordonner à ces créatures de rendre un compte exact de la partie de leur corps que fait le mieux l'individu qui la courtise. Qu'entre un homme qui regarde un téton, par exemple, et un qui courtise une chute de rein, il y a décidément la même différence qu'entre un honnête homme et un coquin, et que celui qui est tombé dans l'un ou l'autre de ces cas, c'est suivant la mode, doit nécessairement être le plus grand ennemi de l'État. Sans ces méprisables platitudes, dis-je, il est certain que deux louables bourgeois, dont l'un a une femme bigote et dont l'autre est célibataire, pourraient aller passer très légitimement une heure ou deux chez ces demoiselles. Mais ces absurdes infamies glaçant le plaisir des citoyens, il ne vint pas à l'esprit de Cernanval de faire seulement soupçonner à des portes ce genre de dissipation. Celui-ci, s'en apercevant et ne se doutant pas des motifs, demanda à son ami pourquoi. Lui ayant déjà proposé tous les plaisirs de la capitale, il ne lui avait point parlé de celui-là. Cernanval objecte la stupide inquisition, des portes en plaisante. Et nonobstant, les listes de M, les rapports de commissaires, les dépositions d'exemples et toute autre branche de friponnerie établie par le chef de cette patrie des plaisirs du manant de Lutèce. Il dit à son ami qu'il voulait absolument souper avec des catins. « Écoute, » répondit Cernanval, « j'y consens. Je te servirai même d'introducteur pour preuve de ma façon philosophique de penser sur cette matière. Mais par une délicatesse que j'espère que tu ne blâmeras point, par les sentiments que je dois enfin à ma femme et qu'il n'est pas en moi de vaincre, tu permettras que je ne partage point tes plaisirs. Je te les procurerai et j'en resterai là. » Desportes persifle un instant son ami, mais le voyant décidé à ne point laisser entamer sur cet objet, consent à tout, et l'on part. La célèbre S.J. fut la prêtresse au temple de laquelle Cernanval imagina de faire sacrifier son ami. « C'est une femme sûre qu'il nous faut, » dit Cernanval, « une femme honnête. Cet ami pour lequel j'implore vos soins n'est que pour un instant à Paris. Il ne voudrait pas rapporter un mauvais présent dans sa province, et vous y perdre de réputation. « Dites-nous franchement si vous avez ce qu'il lui faut et ce que vous désirez pour lui en procurer la jouissance. »« Écoutez, » reprit la S.J., « je vois bien à qui j'ai l'honneur de m'adresser. Ce n'est pas des gens comme vous que je trompe. Je vais donc vous parler en honnête femme, et mes procédés vous prouveront que je le suis. J'ai votre affaire. Il s'agit d'y mettre le prix. C'est une femme. Appelons un morceau de prêtre. Et vous savez que ces gens-là, étant mes meilleures pratiques, je ne leur donne pas ce que j'ai de plus mauvais. Il y a 3 jours que monsieur l'évêque de M m'en donna 20 louis. L'archevêque de R lui en fit gagner 50 hier, et ce matin encore, elle m'en valut 30 du coadjuteur de... Je vous l'offre pour 10, et cela en vérité, messieurs, pour mériter l'honneur de votre estime. Mais il faut être exact au jour et à l'heure. Elle est en puissance de son mari et d'un mari jaloux, qui n'a des yeux que pour elle, ne pouvant jouir que d'instants dérobés. Il ne faut donc pas manquer d'une minute ceux dont nous serons convenus. Desportes marchanda un peu. Jamais Catin ne se paya 10 louis dans toute la Lorraine. Plus il chercha à diminuer, plus on lui vantait la marchandise. Bref, il convint. Et le jour suivant, 10 heures précises du matin, fut l'heure choisie pour le rendez-vous. Cernanval, ne voulant point être de moitié dans cette partie, il n'était plus question d'un souper, moyennant quoi l'on a épris ce moment de Desportes, bien aise d'expédier cette affaire-là de bonne heure pour pouvoir vaquer le reste du jour à d'autres devoirs plus essentiels à remplir. L'heure sonne. Nos deux amis arrivent chez leur charmante entremetteuse. Un boudoir où ne règne qu'un jour sombre et voluptueux renferme la déesse où des portes va sacrifier. Heureux enfant de l'amour, lui dit Cernanval en le poussant dans le sanctuaire. Vole dans les bras voluptueux que l'on étend vers toi. Et viens seulement après me rendre compte de tes plaisirs. Je me réjouirai de ton bonheur et ma joie sera d'autant plus pure que je n'en serai nullement jaloux. Notre catéchumène s'introduit. 3 heures entières suffisent à peine à son hommage. Il revient enfin assurer son ami que de ses jours, il ne vit rien de pareil et que la mère même des amours ne lui aurait pas donné tant de plaisir. « Elle est donc délicieuse ?» dit Cernanval à demi enflammé. « Délicieuse. Ah, je ne trouverai pas d'expression qui puisse lui rendre ce qu'elle est. Et dans cet instant-ci, même où l'illusion doit être anéantie, je sens qu'il n'est aucun pinceau qui puisse peindre les torrents de délices dans lesquels elle m'a plongé. Elle joint aux grâces qu'elle a reçues de la nature, un art si sensuel à les faire valoir. Elle sait mettre un sel, un piquant si réel, dans sa jouissance, que j'en suis encore dans l'ivresse. Oh, mon ami, tâte-en, je t'en supplie, quelque habitude que tu puisses avoir des beautés de Paris. Je suis bien sûr que tu m'avoueras que jamais aucune n'a valu à tes yeux celle-là. » Cernanval, toujours ferme, mais néanmoins ému d'un peu de curiosité, prit la égie de faire passer cette fille devant lui quand elle sortira du cabinet. On y consent, les deux amis se tiennent debout pour la mieux observer et la princesse passe fièrement. Juste ciel ! Que devient Cernanval quand il reconnaît sa femme ? C'est elle, c'est cette prude qui, n'osant descendre par pudeur devant un ami de son époux, a l'impudence de venir se prostituer dans une telle maison. « Misérable ! » s'écrie-t-il en fureur. Mais c'est en vain qu'il veut s'élancer sur cette créature perfide. Elle l'avait reconnue aussi vite qu'elle avait été aperçue, et elle était déjà loin du logis. Cernanval, dans un état difficile à dire, veut s'en prendre à la SJ. Celle-ci s'excuse sur l'ignorance où elle est. Elle assure Cernanval qu'il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire bien antérieurement au mariage de cette infortunée, que cette jeune personne fait partie de chez elle. « La scélérate ! » s'écrie le malheureux époux, que son ami s'efforce en vain de consoler. « Mais non, que cela soit fini, le mépris est tout ce que je lui dois, qu'elle soit à jamais couverte du mien, et que j'apprenne par cette cruelle épreuve que ce n'est jamais, d'après le masque d'hypocrite des femmes, qu'il faut s'aviser de les juger. » Cernanval revint chez lui, mais il n'y trouva plus sa catin, elle avait déjà pris son parti. Il ne s'inquiéta pas. Son ami, n'osant plus soutenir sa présence après ce qui s'était passé, se sépara le lendemain de lui. Et l'infortuné Cernanval, isolé, pénétré de honte et de douleur, fit un inquatre contre les épouses hypocrites qu'il ne corrigea point les femmes et que les hommes ne lurent jamais.